À toutes et à tous, c'est une joie d'être parmi vous. J'ai un souvenir quand j'avais à peu près 10 ans d'être dans cette église. Mais bon, ça fait maintenant très, très longtemps. J'étais avec mon père. À l'époque, il était pasteur à Toulouse. Et puis, bien sûr, on était là pour le mariage d'Andrei et de sa femme, maintenant de près de 3 ans, je crois, non ? Ouais, on s'approche à 3 ans. Et on est toujours un peu triste que nous n'avons pas gagné Azania, mais que nous avons perdu Andrei. Mais ça, la mère d'Andrei est dans notre église aussi. Et nous vous apportons les salutations de l'église là-bas, d'Albert Zandri, sa femme aussi, que certains ici connaissent bien. C'est toujours un privilège de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Ma préférence et mon habitude, c'est de prêcher textuellement, c'est-à-dire je prends un texte de la Bible et on le regarde et on le dévoile ensemble. Mais c'est aussi bien parfois de prêcher avec un thème, des prédications thématiques. Et vous verrez aujourd'hui que je vais parler du pardon. Et c'était déjà le thème de ce que nous avons pu chanter, lire dans la parole de Dieu. Mais j'espère faire rapidement avec vous un petit survol de ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu par rapport au pardon. Alors quand on commence avec un thème, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut regarder un peu toute la Bible. Et après, on ne peut jamais parler de tout ce qu'il y a dans la Bible, surtout sur un sujet tel que le pardon. Mais juste pour vous montrer un peu la complexité de ce sujet, je vous invite de regarder ces trois versets, sans les chercher. Mais notez ce qui est dit là en Luc 5. Les pharisiens disent « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Alors, est-ce qu'ils avaient raison ? Oui, ils avaient raison. Et c'est choquant pour eux de voir Jésus qui pardonne les péchés de cet homme. Vous pouvez aussi lire cette histoire en Marc chapitre 2. Donc le pardon, il semble, c'est quelque chose que Dieu seul peut donner. Mais nous lisons aussi en Luc 17, où Jésus dit... Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, c'est-à-dire après que tu l'as repris, il se repent, alors pardonne-lui. Et là, il semble que le pardon est conditionnel sur le fait d'abord de le reprendre et sa repentance. Mais quand je lis Marc 11, 25, Jésus dit ceci, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Et là, je vois que dans la prière devant Dieu, je dois pardonner unilatéralement toute offense contre moi qui me vient à l'esprit. Donc vous voyez, j'espère, la complexité de ce sujet. Et je vais parler sous trois titres. Le pardon, on va dire, expliquer la nature du pardon. Et puis le pardon motivé, la source du pardon. Et puis à la fin, quelques mots sur le pardon accordé, c'est-à-dire l'exercice du pardon. Alors prenons d'abord ce sujet de ce qu'est le pardon, sa nature. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite de trouver Matthieu chapitre 6. Et on va regarder en fait plusieurs textes dans la Bible, parce que c'est une prédication thématique. Mais le pardon, je dis ici, c'est un acte juridique, mais aussi relationnel, entre les personnes, entre Dieu et nous, par lequel la dette morale est annulée. Jésus nous enseigne à prier. Dans la prière, ce qu'on appelle souvent le Notre Père, au verset 12, Matthieu 6, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le mot grec pour offense est le mot pour dette. En fait, si vous avez le Darby, ou le Martin, ou la Nouvelle Bible Seconde, je pense, la Bible annotée, vous allez lire ceci. « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Et là, on voit que le pardon est très associé aux dettes. Vous voyez ça? Le péché est souvent communiqué dans la Bible comme une dette morale envers Dieu ou envers les autres. Et le pardon, c'est remettre donc la dette. Et à chaque fois avec le pardon, il y a le côté vertical, c'est-à-dire entre moi et Dieu. Et puis il y a le côté horizontal, entre moi et les autres. Et dans cette prière, on voit les deux. Qu'est-ce qu'il dit? Il prie à Dieu, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons aux autres. On voit les deux qui sont très liés. Est-ce que vous pouvez trouver Luc chapitre 7? En Luc chapitre 7, Jésus se trouve dans la maison de Simon. C'est un pharisien. Il y a beaucoup de Simon dans la Bible. Celui-ci, c'est un pharisien. Et au verset 37, Luc 7, 37, on nous dit ceci. « Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. » Alors notez qu'elle est appelée quoi? Une femme pécheresse. Ça, c'est important. Et elle va donc pleurer devant Jésus, elle va mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Et le pharisien, verset 39, qui a invité Jésus, il voit cela et il dit, « Wow, Jésus aurait dû savoir que cette femme est une, » qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 39, « une pécheresse encore. » Et Jésus, verset 40, il prend la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. » répondit-il. Le narrateur et Simon nous disent tous les deux qu'elle est une femme pécheresse. Et ça, c'est central à ce qui va suivre, parce que Jésus va maintenant raconter une histoire. Regardez verset 41. Quelle est l'histoire? Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit tout de leur dette. Lequel l'aimera le plus. Vous voyez, il y a un créancier, il y a deux débiteurs, on a des dettes à rembourser, et on parle d'une femme pécheresse, et puis Jésus raconte cette histoire. Donc, on voit le lien entre le péché et la dette. C'est comme ça que Jésus, dans son esprit, conçoit le péché. C'est une dette contre Dieu. Et l'application rend ce lien encore plus clair. Regardez le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux quoi? Péchés seront ou ont été pardonnés. Comme la dette aussi hein, qui est remise. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Donc, quelle est la nature du pardon? On le voit encore dans cette histoire. La nature du pardon, c'est renoncer à exiger le paiement de cette dette. Vous connaissez Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Hein, le péché produit une obligation et une rétribution qui est due. Et Romains 13, 8 dit « Ne devez à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Donc le manque d'amour s'est présenté comme une dette morale envers les autres. Il faut pas ne devez rien à personne, mais plutôt aimer les frères et les sœurs. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? En Colossiens 2, 14, il dit que Jésus a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Imaginez hein, toute la liste de nos dettes, et ce que Jésus a fait sur la croix, c'est qu'il l'a effacé, il l'a enlevé. Quelle grâce! Et un jour, dans un passage, je vous demande de trouver, c'est Matthieu 18 ici. Pierre, il vient à Jésus avec une grande question théologique. Il se demande même si Jésus pourra trouver la réponse. Et Matthieu 18, verset 21, Pierre s'approche de Jésus et il dit, Seigneur, combien de fois, pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Voici sa suggestion, qui est très, très généreuse de sa part. Jusqu'à 7 fois. Et puis Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire sans arrêt. Et après, on parle du pardon, et après Jésus raconte une histoire, tout de suite, comme lorsqu'il était avec Simon. Quelle est l'histoire? Regardez le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand on se mit à compter, on lui amena un qui devait, voyez, il devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, que la dette soit acquittée. Et le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je paierai tout. » Et ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Qu'est-ce qu'il fait à la fin du verset 27? Il lui remit la dette. Ça, c'est pardonné. Le pardon, c'est cet acte juridique, relationnel aussi, par lequel la dette morale est tout simplement annulée. Elle ne sera jamais payée. Parce qu'on a choisi de l'annuler ou de la remettre. Et vous connaissez la suite de l'histoire, Il sort, il trouve quelqu'un envers qui a des dettes envers lui. Maintenant, c'est lui le créancier. C'est l'autre qui est le débiteur. Et qu'est-ce qu'il fait envers ce serviteur, son frère, son confrère, son égal? Il exige que l'autre paye ce qu'il lui doit. Et si vous notez le verset 32, il dit, quand le maître, il attend cela, il fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, notez ce qu'il dit, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Et notez l'application que Jésus donne au verset 35. Cette histoire de remettre des dettes, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne quoi pardonne à son frère de tout son cœur. Ça, c'est le pardon. C'est l'acte par lequel Dieu, en premier, ou une personne offensée, renonce volontairement à réclamer la dette morale causée par une faute. Elle cesse de tenir cette faute contre le coupable et la personne choisit de traiter l'autre avec grâce plutôt qu'avec jugement ou le jugement que l'autre mérite. Et je pense que ça peut nous aider à savoir si nous avons réellement pardonné aux autres. Est-ce que vous pouvez, dans votre tête, votre pensée, imaginez la dette que vous pensez que l'autre vous doit dans une circonstance quelconque. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous croyez que cette personne vous doit en raison de ce qu'elle vous a fait? Quel est le paiement qu'attendez-vous encore de sa part? Si votre pasteur, Tony, il abîme ma voiture, il dit, désolé, j'ai cassé la fenêtre. Je dis, écoute, Tony, je te pardonne, mais tu me dois 200 euros. Est-ce que je lui ai pardonné? Je te pardonne, mais tu me dois. Non, ce n'est pas le pardon. Je ne lui ai pas remis sa dette. Le pardon, c'est remettre la dette à l'autre. 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 5, ça parle de l'amour, vous connaissez cette histoire. ce chapitre, pardon. Il dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas. Et la NBS dit comme ceci, il ne tient pas compte du mal. Une autre traduction dit, il ne se souvient pas du mal. Encore une autre, si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Je pense que cette traduction est mieux que la NEG qui dit ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, je pense que c'est l'idée qu'il ne tient pas compte, il ne garde pas une liste. L'amour ne garde pas la liste. Ce que tu as fait hier, avant-hier, il y a 3 semaines, il y a 2 mois, il y a 50 ans. Il y a des personnes qui gardent dans leur tête des listes de tout ce que les autres ont fait contre eux. Et c'est pour ça que le pardon, c'est le contraire de l'amertume. Parce que l'amertume, elle garde dans son cœur la faute de l'autre. Et elle se nourrit de la faute de l'autre contre soi-même. Le pardon consiste à ne plus tenir la faute contre quelqu'un. Alors, il y a ce verset qui nous interpelle. Jésus dit en Jérémie 31-34, il dit « Je pardonnerai leur iniquité ». Et puis en parallèle, il dit quoi ?« Je ne me souviendrai plus de leur péché ». Pardonner donc, ce verset suggère, c'est de ne plus se souvenir. Mais il ne faut pas penser que ça veut dire que Dieu oublie littéralement ce qui s'est passé. Ça ne parle pas de ça. Dieu connaît toutes choses. Mais il choisit de ne plus faire du péché pardonner la base de sa relation avec l'autre. Il y a un très bon livre qui s'appelle « Des relations, une bénédiction compliquée », je crois que c'est ça le titre. Vous le connaissez peut-être, mais il parle de ce passage. Il dit « Le passage de Jérémie ne dit pas que Dieu souffre d'amnésie lorsqu'il vous regarde. Notre Dieu omniscient n'oublie rien. Le mot « se souvenir » n'est pas un mot de mémoire, mais de promesse. » Un mot d'alliance. Dieu promet que lorsque nous confessons nos péchés, je ne vous traiterai pas selon ce que vos fautes méritent. Au contraire, je vous pardonnerai. Nous savons que Dieu se souvient des péchés. Par exemple, quand David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, Nathan dit tout de suite à David, l'Éternel pardonne ton péché. C'est 2 Samuel 12, 13. Mais nous lisons des décennies plus tard, je lis ici en 1 Roi 15, je crois qu'on est 60 ans plus tard, il dit cela de David. Car David avait fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien, celui dont Dieu lui avait pardonné. Donc vous voyez, ce n'est pas que Dieu oublie quand il pardonne, mais il choisit de ne plus mettre ce péché, il n'intègre plus ce péché dans la relation qu'il a avec David. Il pardonne, même s'il peut toujours citer dans sa tête le péché qu'avait commis David. Donc le pardon consiste à ne pas tenir la faute contre l'autre. Et je reviens maintenant à Matthieu 6, où nous prions à Dieu, « Remets nos dettes ». Comme nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. Et le fait que le pardon soit présenté dans la Bible comme la remise d'une dette, je pense que ça m'aide, en tout cas, j'espère que ça vous aide aussi à comprendre que le pardon ne consiste pas d'abord dans un sentiment particulier que j'ai envers l'autre qui m'a offensé. Nous pensons parfois, il y a des chrétiens qui sont troublés même, que nous avons pardonné seulement lorsque toute tristesse, toute blessure soit disparue de notre cœur. Mais les sentiments ne sont pas le fondement du pardon biblique. Le pardon est avant tout cette décision morale, spirituelle, de renoncer à exiger le paiement de la dette que l'offense a créer. Parfois, les émotions peuvent mettre du temps à suivre. Parfois, il faut lutter avec les sentiments de notre cœur. Et donc, le pardon ne consiste pas non plus à minimiser la faute On a tendance à dire, c'est pas, quand quelqu'un dit pardon, on dit, c'est pas grave. Mais parfois, c'est grave. Et il ne faut pas dire que ce n'est pas grave. En fait, plus l'offense est importante, plus le pardon est coûteux. Si ce n'était pas grave, ce serait rien, en fait, de pardonner. Donc, le pardon reconnaît la réalité du tort subi. Il regarde le mal en face sans le nier, sans l'excuser, sans le justifier. Et quand Dieu nous pardonne, il ne nous dit pas que ce n'est pas grave. Il remet la dette qui est en fait énorme. Et lorsque nous pardonnons un autre, nous ne déclarons pas en pardonnant que l'offense n'est pas importante, mais que nous renonçons à faire payer l'offenseur la dette qu'il a contractée envers nous. Alors, qu'est-ce qui motive le pardon ? Le pardon motivé. Si la nature du pardon, c'est remettre la dette, et les gens ont des dettes envers nous, que nous allons remettre aussi, la motivation, la source du pardon se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Jésus ne peut pas d'un seul mot remettre nos dettes. Il a dû payer la dette avant qu'il puisse la remettre, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs endroits où ça devient très, très clair. Par exemple, Hébreux 9, 22, qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de... » Voilà, il n'y en a pas. La religion musulmane a la pensée que Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut pardonner, il pardonne. Mais Dieu avait mis le peuple d'Israël à travers des siècles de ses sacrifices. Chaque péché, il faut un sacrifice, un autre sacrifice. En fait, pour leur apprendre une leçon importante, que le pardon ne se déclare pas, même par Dieu. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour le péché. Même pour que Dieu puisse être juste et justifier le pécheur. Et donc Éphésiens chapitre 1, verset 7 dit « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. » Et ayant la rédemption, nous avons après quoi ? Le pardon des péchés. Vous voyez comment c'est lié à ce que Jésus a fait sur la croix ? Et tout cela selon la richesse de sa grâce. Donc la justice de Dieu est satisfaite en Christ, ce qui permet à Dieu de pardonner tout en demeurant juste. Voyons leur foi, je reviens à ce qu'il dit en Marc 2 ou Luc 5. Jésus dit à l'homme devant lui, « Tes péchés sont pardonnés. » Et les scribes disent, mais qui peut pardonner les péchés sauf Dieu? Et Jésus ne nie pas ce qu'il affirme, même ce qu'ils disent, mais après il va guérir l'homme pour montrer qu'il a des pouvoirs divins, qu'il est lui-même divin et qu'il peut pardonner les péchés. Mais il a dû le faire sur la croix. Ça c'est le péché, ça c'est le pardon que Dieu nous offre, c'est grâce à la croix, grâce à ma dette qui a été payée par Christ. Ça c'est côté vertical, mais maintenant côté horizontal. Comment est-ce que quelle est la source, la motivation de mon pardon envers mon prochain ? Pour nous, notre pardon à nous crée notre obligation de pardonner. Le pardon se trouve sa motivation dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais ça fonde après notre obligation de pardonner. Rappelez encore Matthieu 6. Pardonne-nous nos dettes ou nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, est-ce que vous pouvez revenir à Matthieu 18 et noter encore ce que le maître dit à ce serviteur ? À qui il avait tout pardonné, il avait remis la dette entière, mais lui, il trouve un autre, il refuse de remettre la dette de l'autre. Et le maître le fait appeler et lui appelle quoi? Quel est le titre qu'il lui donne? Méchant serviteur. C'est fort. Pourquoi est-ce qu'il est appelé méchant? Est-ce qu'il a fait quelque chose d'illégal? Absolument pas. Tout ce qu'il a fait, c'est réclamer ses droits. On sait bien en France réclamer nos droits, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'il a fait. Il a tout simplement exigé ses droits. Et si on dit, mais pourquoi tu m'appelles méchant? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi une chose que j'ai fait qui n'est pas juste. C'est l'autre. Pourtant, il est appelé méchant. Pourquoi est-ce qu'il est appelé méchant? Le maître lui dit, il dit, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et notez le verset 33. Ne devais-tu pas, voyez, ça devient une obligation morale ici. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Notez l'application encore. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le pardon, notre obligation morale de pardonner est basée sur le fait que Christ nous a pardonné bien plus. Nous avons donc une obligation de montrer la grâce. N'est-ce pas curieux? Parce que c'est quand même la grâce. C'est-à-dire, l'autre ne le mérite pas. Mais je suis obligé de lui montrer la grâce. Dieu n'est jamais obligé de montrer la grâce. Il a aucune obligation de pardonner. Ça vient que de sa personne. Mais nous, ayant reçu la grâce, nous avons une obligation de montrer la grâce aux autres. Et donc, nous devons sentir coupables si nous refusons le pardon vers l'autre qui nous a offensés, même si nous avons légalement rien fait de mal. Alors parlons donc en troisième lieu de ce pardon accordé, c'est-à-dire l'exercice du pardon. Et c'est là où on a souvent des questions, des difficultés. Vous connaissez, comme je connais même dans mon église, des personnes qui ont été violées, des personnes qui ont été volées, des personnes qui ont été trahies, qui ont connu d'autres personnes qui ont dit des mensonges sur eux. Comment est-ce que nous accordons le pardon aux autres? Et je veux, c'est mes mots à moi, hein, ça ne vient pas de la Bible, mais je trouve cela dans la parole de Dieu, une distinction entre la disposition de pardonner et puis la transaction du pardon. La disposition de pardonner doit être réelle et continuelle, nous allons voir tout à l'heure cela, mais la transaction du pardon s'active lorsque les conditions bibliques sont réunies. Parce que le but du pardon, c'est la réconciliation. Mais la réconciliation, il y a toujours deux acteurs dans une réconciliation, n'est-ce pas? Une réconciliation n'est jamais unilatérale. Toujours deux personnes qui sont réconciliées l'un à l'autre. Et quand il y a une dette morale, il faut qu'il y ait le pardon de la part de l'un, mais il faut qu'il y ait aussi la repentance de la part de l'autre. Je reviens à ces deux textes cités au début. Luc 17, 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Il ne dit pas juste pardonne-lui. Non, il dit reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. J'ai le devoir, sous certaines conditions, de pardonner. Pensez-vous que l'attitude de Jésus-Christ envers l'homme qui est venu, hein, à qui il a dit « Je te pardonne, tes péchés sont pardonnés », est-ce que l'attitude de Jésus-Christ envers cet homme était fondamentalement différente juste avant de l'avoir pardonné que juste après? Je ne pense pas. Mais il y a quand même eu un moment où Jésus lui offre le pardon. Et il faut penser d'abord au pardon comme cette transaction bilatérale entre deux parties concernées. Le mot dans la Bible, par exemple, pour revenir en Éphésiens 1:7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça parle ici du pardon divin, hein, de nos péchés. Colossiens 1:14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et Matthieu 26 dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et là, je vois que là, c'est quelque chose que je ne peux même pas faire. Je ne peux pas pardonner les péchés d'un autre, parce que tout péché est avant tout contre qui ? Contre Dieu, comme dit le psalmiste dans le psaume 51, c'est « J'ai péché contre toi, toi seul », il dit. En fin de compte, s'il n'y avait pas Dieu, ce ne serait pas le péché de faire du mal aux autres. Quand un lion saute sur un agneau, ce n'est pas le péché. C'est à cause de Dieu, les hommes créés dans l'image de Dieu, les obligations que Dieu nous donne, que ça devient avant tout un péché contre Dieu. Et il demande le pardon de Dieu. Mais la Bible, le pardon n'est pas réellement accordé à un pécheur que lorsque le pécheur revient, confesse et se repent. Que dit 1 Jean 1:9 ? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Dans cette même épître, il dit attention, si vous niez votre péché, vous êtes encore dans les ténèbres. Il faut le confesser. Proverbe, chapitre 28, verset 13, dit « Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. » Acte 3, verset 19, « Repentez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Ces textes nous montrent que le pardon est réellement appliqué et la relation est réellement restaurée entre moi et Dieu lorsque je me repens. Le pardon est là, il est prêt à être offert, mais je dois me repentir. Et si vous êtes là et vous avez des péchés contre Dieu et vous n'êtes pas repenti devant Dieu, vous n'avez pas le pardon de Dieu. Vous êtes encore dans vos péchés. La Bible dit que nous pouvons mourir dans nos péchés. Le pardon, donc, c'est comme ça entre Dieu et nous. Et rappelez qu'on a prié, pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Et déjà, nous voyons un peu comment Dieu nous pardonne. Mais c'est une transaction aussi entre deux humains. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-le. Lui, la réconciliation entre deux personnes est le fruit, on le voit dans ce verset, hein, de la repentance de l'offenseur et du pardon de l'offensé. Et dans le pardon, donc, je remets la dette à l'autre contre moi et j'assume moi-même cette dette. Je m'engage à ne plus traiter l'autre comme s'il me devait quelque chose. Mais c'est le fruit de la repentance et du pardon qui vont ensemble. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Il est très attristé à la fin de Genèse, après la mort de leur père, que ses frères pensaient qu'il allait encore leur faire du mal. Et ils ne croyaient pas vraiment qu'ils étaient pardonnés, que Joseph leur avait pardonné. Mais vous savez que quand ils sont venus la première fois, Joseph les a amenés à travers plusieurs étapes pour tester et même pour les amener à la repentance. Alors, est-ce que vous pouvez revenir en Matthieu 18? On a déjà lu le chapitre, peut-être vous y êtes toujours. Ça, c'est où Jésus parle du pardon. Hein? Pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Ce passage est très important pour comprendre l'application du pardon. Mais notez où commence la discussion sur le pardon. Nous avons lu tout à l'heure à partir du verset 21. Mais maintenant, on va reculer et on va lire à partir du verset 15. Vous pouvez voir ça, Matthieu 18, verset 15. C'est là où commence cette discussion sur le pardon. Il faut l'intégrer à la discussion. Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ce qu'il a dit en Luc 17, s'il se repent. Tu pardonnes et donc tu as gagné ton frère. La Bible ne dit pas si ton frère a péché, pardonne-le automatiquement, oublie l'affaire. Hein? Oh. Faut pas oublier que pardonner, c'est remettre la dette, pour plus en parler. Non, la Bible dit, regardez le verset 16, « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Ben, on dirait, bon, là, peut-être on va pardonner et oublier l'affaire. Non, verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Bon, on a dit à l'Église, maintenant on pardonne. Non, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, une chose quelconque, elle sera accordé par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? » Sera jusqu'à 7 fois. Voyez le lien entre les deux. Ce qui gêne Pierre ici, ce n'est pas le fait de le dire à l'Église. Ça, apparemment, ça ne le gêne pas. Ce qui le gêne ici, ce qu'il a du mal à absorber, c'est que Jésus dit si facilement, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et ça s'arrête là. On ne va même pas le dire à deux ou trois frères ou sœurs dans l'église pour qu'elles puissent prier pour lui. Même pas ça. C'est vraiment si simple que cela, se demande Pierre. Mais attends, si ça arrive deux fois, fois, jusqu'à 7 fois, il faut faire ça. Jésus dit oui, quelqu'un dans l'église, voilà, ça arrive 70 fois sans fin. C'est comme ça que ça devrait marcher au sein de la communauté de Christ. Et c'est pour cela qu'il pose la question à Jésus concernant le nombre de fois qu'il faut pardonner. Alors, quand quelqu'un pêche contre vous, on a plusieurs options bibliques. Quand je pêche contre ma femme, ça arrive, hein, tous les 2-3 ans, je pêche contre ma femme. Non, je blague. Et elle peut couvrir la faute. La Bible dit en fait que l'amour couvre combien de fautes ? Voilà, une multitude de fautes. Vous savez, il y a des dettes contre vous que vous pouvez et vous devez tout simplement couvrir. Il y a des choses que les disciples ont dit à Jésus, et on voit, il ne réagit même pas. Pensez à tous nos péchés contre Dieu, et il ne nous tape pas dessus, en fait. Il les couvre dans sa grâce. Et il faut toujours exercer. C'est une forme de pardon, mais c'est juste couvrir la faute, même sans que l'autre reconnaisse sa faute. Il y a parfois ce désir en nous de faire forcer l'autre à reconnaître chaque faute qu'elle a fait contre nous. Ça, c'est pas biblique. Mais parfois, il y a des choses qui reviennent, qui doivent être abordées et discutées. Et c'est là où il faut énormément de grâce, hein, et de sang, être très sensible à l'esprit en nous et à notre péché, le pardon que Dieu nous donne. Mais le pardon ici, c'est cette transaction où je remets la dette de l'autre en prenant sur moi le prix dû à sa repentance. Et ça arrive dans l'Église. Il y a des gens où il faut les discipliner. On ne peut pas juste les pardonner. Et ce n'est pas forcément la gravité de la chose qui détermine, mais c'est leur refus de se repentir. Mais il arrive un temps, et c'est en 2 Corinthiens 2 où il parle de ça. Il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous. Du moins, en partie, pour ne rien exagérer, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Il parle d'une situation où un homme avait péché et ils ont discipliné cet homme. Il y avait un châtiment qui est venu. Mais il dit après, au verset 7, maintenant, vous devez plutôt lui pardonner et le consoler. La semeur dit, devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconfort. Vous voyez, même dans la discipline de l'Église, il arrive un temps où on dit, ok, c'est le temps, maintenant on va pardonner et on va même le consoler, comme Joseph a consolé ses frères. Et on ne va plus parler de cette situation. Mais ça, c'est la clé pour ces situations. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Mais le pardon, c'est aussi une disposition unilatérale. Et là, je m'appuie sur ce verset en Marc, où il décrit le chrétien debout faisant sa prière devant Dieu. Et il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il semble que ce qui est ici, c'est juste ce qui se passe dans la tête, hein, de l'adorateur. Il est là dans la prière devant Dieu. Il commence à prier. Et cette offense lui vient à l'esprit. Tout de suite, ça change son émotion. Ça, il se sent en train d'être énervé ou en colère peut-être même. Et ça affecte sa prière à Dieu. Et ici, le contexte donc, n'est pas notre relation, on n'est pas en train de parler avec le frère, mais notre prière d'adoration devant Dieu. Et nous ne sommes pas face au frère, mais nous sommes face à Dieu ici. Et ici, Dieu nous dit de lâcher toute dette contre nous-mêmes. Toute dette. Devant Dieu, je ne peux pas réclamer ma dette. Je ne peux pas aller à Dieu. Dieu, il me doit. Tu sais ce qu'il me doit? Tu sais ce qu'il m'a fait? Dieu, il faut que tu fasses qu'il me paye ma dette. Il faut que tu fasses qu'il change son attitude envers moi. Vous voyez, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de réclamer devant Dieu la dette que l'autre me doit. Regardez comment nous devons prier pour nos ennemis. Je lis ici en Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, il faut même prier pour eux. Prier que Dieu les bénisse. Pas que Dieu les fasse payer, mais que Dieu remet leur dette à eux comme il a remis ma dette à moi. Et donc, devant Dieu, le pardon que je donne est unilatéral. Elle est totale. Je ne peux rien réclamer de qui que ce soit dans ma prière devant Dieu. Mais je dois les bénir. 1 Pierre 3, 8 et 9 dit, « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Il faut bénir, les bénir même dans la prière. Ça, c'est l'attitude de grâce que nous devons avoir. Alors peut-être ça a suscité encore plus de questions. Vous pouvez amener toutes vos questions au pasteur Tony sur le pardon. Mais ça démontre la richesse que Dieu a pensée au pardon. C'est qui a inventé le pardon? C'est Dieu. Il y avait des sociétés où si on devait quelque chose, on l'a lu même, il fallait se donner en esclavage, parfois vendre ses enfants, sa femme, etc. Il n'existait pas un échappatoire. Hein. On ne pouvait pas faire faillite. Imaginez si Dieu était comme ça. Tu ne peux pas faire faillite. Tu dois payer jusqu'à tout soit payé. On serait pendant l'éternité en enfer sans avoir même commencé à payer la dette qui nous incombe. Dieu a pensé à la possibilité d'effacer simplement les dettes. Quelle grâce! Et pour le faire, ça lui a coûté cher, très cher, la mort de son fils. Et maintenant, il nous dit à nous, vous savez, il y a des fautes contre nous, ils ne pourront jamais payer. En fait, il pourrait passer des années, on ne sentirait jamais dans nos cœurs, « Ah, maintenant, il a payé sa dette envers moi. » Non, ça ne va pas arriver. Il est nécessaire que vous pardonnez à l'autre, que vous ayez cette disposition de tout remettre. Dans la prière, il n'y a pas de rancune dans votre cœur devant Dieu. Vous n'êtes pas, je refuse toute relation jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Et parfois, vous êtes là et on attend la repentance de l'autre. Mais l'image que je vous mets, que je vous encourage à garder à l'esprit, c'est le père du fils prodigue. C'est quoi son attitude après que son fils part? Content qu'il soit parti, lui. Et s'il revient un jour, je vais lui dire des choses. Hein. Est-ce qu'il pensait tous les jours, oh, je sais que j'ai vécu, quand je le vois. Oh. Parfois, vous savez, on a des conversations avec quelqu'un et après, on regrette n'avoir pas dit plus. Mince, j'aurais pensé à dire ça. Oh, ça aurait été bien. Il pensait comme ça. Pourquoi je lui ai laissé partir? Non, il attendait, guettait la route. On voit son attitude parce que dès qu'il voit son fils, il met vers lui en courant, les bras ouverts. Ça va être son attitude envers son fils. Et l'attitude du fils envers son père, c'est « pardonne-moi ». Et ça apporte la réconciliation. Et c'est triste que dans la vie, parfois, le pardon n'est pas la repentance. Parfois, la repentance, mais la personne ne veut pas pardonner. Mais grâce à Dieu, nous pouvons avoir les deux. Jésus aime pardonner. Quelqu'un a dit, pardonner, c'est ce en quoi Jésus fait consister sa gloire, sa plus grande joie, et si j'ose le dire, une partie de sa félicité. Jésus aime pardonner. Et nous devons aussi. Prions.